Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, la question d'un frère par rapport à son épouse qui refuse de faire ruqya, elle est touchée par un mal occulte. Donc ma femme refuse de faire ruqya, comment m'y prendre? Je pense que la première chose à faire, c'est de dédramatiser. Il faut essayer de dégonfler entre guillemets la situation dans la présentation, essayer de partir sur du mauvais œil par exemple. Il n'y a pas de mensonge parce qu'au début, la personne, elle ne sait pas réellement, tant qu'il n'y a pas eu de diagnostic clair, elle ne sait pas réellement ce que c'est. Donc on peut suspecter du mauvais œil ou on peut suspecter de la sorcellerie. Donc là, dans cette situation, on va conseiller à la personne de plus mettre en avant du mauvais œil. Peut-être que c'est du mauvais œil, etc. On nous jalouse comme beaucoup de gens sont jalousés. Donc petit à petit, essayer d'installer l'idée que c'est quelque chose de léger et pour petit à petit... Essayer de convaincre la personne. Un deuxième point qui me paraît important, c'est le fait de ne pas attaquer l'autre, de ne pas attaquer ou de ne pas s'en servir du mal occulte. On le voit souvent, malheureusement, dans des couples qui, à la moindre dispute, de toute façon, toi, t'es genouné, t'es sihré, t'as quelque chose, ça fait longtemps, je le sais, ça se voit, etc. Donc le mari va se servir de cette situation, de ce mal occulte, pour, entre guillemets, gagner un débat ou avoir le dessus sur une situation. Donc ça, c'est fait partie des choses qui enveniment forcément la situation. Et on voit des personnes qui regrettent après coup, parce qu'il a utilisé ça, et très souvent, dans les débats, il l'a ressorti avec son épouse, et l'épouse a fini par se braquer complètement, et par dire « j'ai absolument rien, c'est toi le problème ». C'est amer de toute façon, depuis le début, etc. C'est des disputes qui sont venimes. Donc, une fois qu'on a évité ces deux choses-là, il y a le fait de travailler l'idée. Petit à petit, selon la personne, s'adapter à elle pour essayer de la convaincre, mais prendre son temps. C'est pas une bonne idée d'insister ou de trop vouloir en faire. Vaut mieux en faire pas assez. Et prendre son temps qu'en faire trop et regretter. Ensuite, à travers la ruqya, il y a souvent des déclics. Il y a souvent des personnes qui sont pas convaincues d'avoir quelque chose, ou alors qui sont très sceptiques, et en arrivant, ils vont réagir, par exemple, au verset, qu'est-ce qui m'arrive, et là, ils sanglotent et ils se mettent à pleurer. Et là, il y a un déclic. Là, la personne elle réalise que finalement, il y avait réellement quelque chose. Et alhamdoulilah, ça arrive souvent. Mais ce n'est pas systématique. Il y en a qui vont cacher. Il y en a qui sont tellement convaincus ou qui sont tellement dans l'optique de ne pas perdre la face qui vont cacher ce mal occulte. Par exemple, on va commencer à réciter, on va commencer la ruqya et elle va faire semblant de rien ressentir. C'est-à-dire qu'on voit que dans la récitation, quand on commence la récitation, le symptôme du mal occulte, c'est que la personne réagisse physiquement. Donc elle va avoir un malaise, ou alors elle va sentir des frissons, ou une chaleur, ou une envie de vomir, la tête qui tourne, des larmes qui coulent. Ça peut être plein de symptômes comme ça, qui sont physiques, qui sont visibles. Mais la personne, elle peut aussi se retenir. Elle peut essayer dans l'idée de cacher en fait ces symptômes-là. Donc si la personne elle est de mauvaise foi, c'est très difficile de la soigner. Donc c'est pour ça que tout ça, ce volet psychologique, il est très très important, de préparer la personne et qu'elle s'y engage volontairement. Donc dans le cas de ces situations-là, le mieux c'est de partir sur l'idée de « je pense que tous les deux on a quelque chose » pour ne pas accuser l'une ou l'autre, même s'il y a des symptômes clairs et que la personne concernée elle a pas de symptômes, vaut mieux s'inclure et présenter la situation comme ça, de « on est en couple, on a peut-être été jalousé, il y a peut-être du haine, on fait une ruqya tous les deux ». Et l'idéal, à mes yeux, c'est de la faire chacun de son côté. On a vu que c'était beaucoup, beaucoup plus efficace quand le mari il est seul de son côté ou l'épouse est seule de son côté. Ils ont beaucoup plus de facilité pour se confier, pour reconnaître leurs torts, etc. Alors que tout de suite, quand on les réunit et qu'ils sont ensemble, là, généralement, ils font le tri. C'est-à-dire qu'ils ont envie de dire certaines choses, mais ils vont dire la moitié parce que ça donnerait raison dans la dispute, ou ça donnerait raison dans l'envie de divorcer, ou Donc, selon les situations, on a remarqué plusieurs fois que surtout les femmes, elles ont beaucoup plus de facilité à se confier devant leurs sœurs ou devant leurs amis que devant quelqu'un de la famille, en particulier le mari. Donc, on peut faire la roquea sans s'isoler, mais sans le mari. L'idée, c'est d'éviter l'isolement et mettre la personne dans les meilleures conditions, parce que la finalité, c'est qu'elle se remette en question, qu'elle se rapproche d'Allah et qu'elle trouve une guérison. Wa barakallahu fikum.